7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On est bien en direct sur RFI, on est ravis de vous retrouver tous. Aujourd'hui, nous parlons cuisine. Nous allons nous réconforter avec un bon couscous. Et le sacre de l'UNESCO qui a classé il y a 2 mois le couscous au patrimoine immatériel de l'humanité. On va revenir sur cette alliance historique de 4 pays du Maghreb. Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, c'est le plat préféré des Français. Ce sont les Italiens qui organisent chaque année le festival du couscous. De quoi le décliner à toutes les sauces, y compris pour ceux qui ne savent pas rouler la graine. Alors bien sûr, les voisins et les voisines, on attend vous aussi, vos recettes familiales et métissées, vos souvenirs d'enfance, où que vous soyez dans le monde. Vous pourrez parler aussi diplomatie du couscous avec l'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Bonjour Monsieur Ghazi Gerayri.
Bonjour madame et je salue à travers vous tous les auditeurs de cette belle émission.
Merci à vous d'être en direct avec nous sur RFI. Et Nadia Hammam est également dans le studio. Bonjour Nadia Hammam.
Oui, bonjour à tous.
Vous avez suivi les pistes du couscous jusqu'en Amérique, presque jusqu'au Brésil me semble-t-il, non ?
Tout à fait.
En tout cas, vous avez publié il y a 10 ans un livre prémonitoire, Les mondes du couscous aux éditions Encre d'Orient. Il existerait, alors vous faites état de 100 recettes, il existerait des centaines de recettes de couscous, presque autant que de familles. Pourquoi ce plat est-il si populaire pour les fêtes comme pour les repas modestes ? Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend, on vous attend et bien sûr vos appels. Plat unique, WhatsApp unique aujourd'hui, 33 7 64 45 51 41. Je vous rappelle le numéro, n'attendez pas la fin de l'émission. Si vous souhaitez participer à la discussion sur le couscous ou poser vos questions à nos invités, 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Miguel, qui est en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on parle un peu trop du Maghreb dans les médias avec l'immigration, les djihadistes. Mais le couscous, lui, il met tout le monde d'accord. Claude est à Abidjan. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le couscous est accompagné de sauce tomate et de viande. On le cuisine souvent à l'occasion des fêtes, de la tabaski, du ramadan, de Noël ou du jour de l'an. Je crois que le ton est donné, hein, Nadia Hammam, c'est cette incroyable capacité du couscous à se faufiler à travers les religions, les cultures, les langues et les lieux géographiques.
Tout à fait, tout à fait. C'est un plat qui unit avant tout. Et j'ai été, moi, très étonnée de découvrir que le couscous, en fait, existe dans les 3 monothéismes. Donc, voilà, il met d'accord.
Bruno est à Dakar et nous dit « Chez nous, les serrères, qui est d'ailleurs une religion monothéiste à la base, pas musulmane, la base de notre alimentation est le couscous. Les Wolofs l'appellent tiéré, les serrères sadj, j'en raffole, surtout accompagné d'une bonne sauce à l'arachide ou avec une sauce tomate, accompagné de poisson frais. » Allez, vous nous appelez les voisines, les voisins, 33 7 64 45 51 41. On vibre au son du couscous.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Et tout de suite, reportage. Nous pénétrons dans les effluves de la cuisine de Sofia Ossini, une jeune femme franco-kabyle de 27 ans, née en Algérie, arrivée en France pour fuir la décennie noire. Et comme beaucoup, Sofia et sa famille ont embarqué dans leur bagage la recette familiale du couscous. Aujourd'hui, Sofia a quitté le domicile familial, mais pas sans la recette. Notre reporter Inès Adel Garcia l'a rencontrée.
La toute première étape, c'est évidemment de verser le couscous dans un saladier. Donc on va laver une première fois, voilà, la semoule, quoi, et la laisser gonfler un petit peu pendant qu'on s'occupe des légumes. En premier lieu, on va s'occuper des oignons. On va mettre de l'ail qu'on va couper finement et ça va revenir une première fois donc, dans le couscousier. C'est un système en fait comme ça avec la marmite en dessous et une espèce de passoire au-dessus mais qui est juste en fait avec des petits trous sur la base en fait. Et donc c'est ce système-là qui permet de faire un vrai couscous. tous les grands événements de la vie, c'est important de faire du couscous parce que voilà, c'est la base, c'est quand même la semoule. Et cette semoule, c'est plein de petits grains, donc ça symbolise vraiment l'abondance et puis...
Et le partage.
Et le partage, évidemment. Et dans la culture amazigh, c'est vraiment très, très ancré. Il y a une pratique qui s'appelle iwaava. C'est vraiment le fait de ne pas laisser le plat à la maison uniquement pour les membres de la famille, mais de le partager un maximum aux voisins, aux amis. Et donc, souvent, c'est un peu le rôle des petites filles que d'aller faire le facteur de couscous, quoi.
Et quand je vous dis, Sophia, couscous, ça vous évoque quoi, spontanément ?
Moi, ça m'évoque ma mère. C'est vrai que c'est aussi cet héritage-là, quoi, qui est matrilinéaire. Mais évidemment, oui, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc, voilà, le couscous de ma mère n'égalera aucun autre. Mais ça, c'est hyper universel. Absolument toutes les personnes qui ont le couscous comme héritage traditionnel, familial ou que sais-je, vous dira le couscous de ma mère est le meilleur.
Et alors, les épices du couscous, quelles sont-elles ?
Je mets ce qu'on appelle du ras el hanout. C'est un mélange en fait de quatre épices. En gros, c'est du cumin, du curcuma, de la coriandre, un petit peu de cannelle aussi, un peu de muscade, voilà. L'objectif, c'est que vraiment, la semoule, après une fois qu'on va la mettre au-dessus, elle s'imprègne aussi le plus possible des saveurs.
Et Sophia, vous connaissez la recette par cœur ?
Bien sûr, évidemment. Je crois que j'avais 12 ans la première fois que ma mère m'a mise devant... Voilà, devant un peu le fait accompli. Maintenant, ma grande, tu vas faire du couscous, quoi. Donc voilà, j'en ai fait plein des couscous. Et ça a même été mon travail à un moment donné, quoi. J'ai bossé dans un resto et je faisais le couscous le vendredi.
Le couscous, c'est une affaire de femmes ?
C'est le royaume des femmes. Ah oui, ça oui, oui, oui. C'est un moment en plus où il y a énormément de confessions. Enfin, c'est vraiment un peu un... La préparation du couscous est aussi un peu un confessionnal. Donc c'est... Surtout pendant les mariages, c'est encore plus intéressant parce que... Donc il y a vraiment plein de femmes qui ne se sont pas vues depuis longtemps, qui se retrouvent tout d'un coup à avoir cette tâche qui est quand même hyper importante parce que si le couscous est raté, le mariage est raté en fait. Mais vraiment. Donc là, voilà, c'est la dernière étape. La dernière fois où on va travailler la semoule, on va la laisser refroidir un petit peu parce que là, elle est très très chaude et encore agrégée avant de servir. Et là, on peut éteindre le bouillon. On voit du coup que tout est parfaitement bien cuit. Voilà, si on regarde là, par exemple... Madame la courgette, hop. La pomme de terre, c'est pareil. Le bouillon est bien rouge. Plein de petites saveurs là dans l'air. On est bon.
Et Sophia, pour vous, le couscous au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça signifie quoi ?
C'est hyper important parce qu'il y a une forme, je trouve, de négationnisme vis-à-vis des cultures de l'Afrique du Nord. Comme si, en fait, l'histoire de l'Afrique du Nord commençait avec l'Égypte et l'expansion de l'islam, alors qu'il y avait des humains en fait avant qui vivaient en Afrique du Nord, qui avaient une identité, un patrimoine, une histoire, une gastronomie. Et le fait que cette recette et ce plat entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est reconnaître une partie de cette histoire, c'est se dire bah voilà que ce plat a quand même traversé les millénaires, a su s'adapter aux saisons, aux autres populations qui venaient sur ce territoire. Et donc oui, c'est raconter l'histoire avec un grand H positif aussi, autre que simplement les guerres, les colonisations, etc. Donc voilà, c'est un vrai plat qui rapproche et c'est vraiment une fierté personnelle.
Reportage d'Inès Edel Garcia. Monsieur Ghazi Gariri, vous êtes l'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Pardonnez-nous, on a commencé l'émission avec... nous étions en cuisine côté Algérie. C'est vraiment une aventure culinaire et diplomatique, ce classement du couscous au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Absolument. D'abord, je voudrais dire que j'ai pris un grand plaisir à écouter Sophia, je crois, nous parler de son expérience personnelle, et elle est arrivée à la fin de son intervention pour dire quel est le sens de la globalité et de l'universel dans ce mets traditionnel, familial et très intime par moment. Oui, effectivement, la démarche n'a pas été simple parce qu'il fallait, il a fallu faire converger des processus nationaux, puisque chaque pays prépare son dossier ensuite et crée un dossier transversal, coordonné dans une région du monde où la tradition de travailler ensemble sur pareil dossier n'est pas le fort de notre diplomatie. Donc on est très content de ce bel aboutissement qui a un sens important. Tout d'abord, la portée de ce plat, mais en fin de compte, ce que l'UNESCO a inscrit, ce n'est pas le plat, ce n'est pas la dimension culinaire, mais c'est les savoir-faire et les pratiques liées à la production et à la consommation, donc à la culture et à la sociologie, je dirais même à l'anthropologie du couscous qui a été inscrit. Je crois qu'il y a lieu d'en être fier, d'abord comme maghrébin, mais au-delà de cela, le début de votre émission a souligné l'extrême diversité de l'appropriation du plat, ce qui nous fait plaisir, et qu'il peut y avoir aussi, à partir du Maghreb, des formes de mondialisation conviviale et sympathique, et nous en sommes particulièrement fiers.
Ouais. Alors, ce que signifie le... Tout s'est bien terminé, puisque vous avez travaillé les quatre pays ensemble, mais quand même, soyons honnêtes, ça n'a pas été toujours aussi simple. Les discussions avaient quand même mal commencé il y a quelques années quand l'Algérie avait pris les devants avec cette idée de couscous après s'être fait retoquer sur la musique raï et gnawa. Comment vous êtes parvenus à vous mettre tous d'accord, non pas sur la recette du couscous parce que je crois que ça il faudra quelques siècles, mais sur le fait de porter cette candidature commune?
Il y a deux paramètres, je crois. D'abord, celui de la montée en gamme du patrimoine immatériel lui-même. C'est une partie relativement récente du travail de l'UNESCO, parce que ce qui était inscrit avant, c'était des sites archéologiques ou des sites naturels. Le patrimoine immatériel est un élément nouveau, donc il y a une prise de conscience qu'il y a une diplomatie, il y a une visibilité, un branding à construire autour de cela, et que au lieu de faire cavalier seul, on est plus fort à travailler ensemble. Ça a pris du temps, mais on est content que cela soit finalement ainsi. Et d'ailleurs, l'Algérie que vous citiez a été le pays coordonnateur de cette opération à quatre, qui, je l'espère, deviendra bientôt à cinq, puisque nous savons aussi qu'une partie, en tous les cas la partie tripolitaine de la Libye, a le couscous dans ses traditions millénaires, mais sauf que la Libye n'est pas encore partie à la convention de l'UNESCO, donc il suffit qu'elle la ratifie et qu'elle fasse un dossier national. Donc ça a vocation à s'installer sur l'ensemble du Maghreb que nous connaissons aujourd'hui. Mais regardons devant nous, ce dossier réussi ouvre la voie à d'autres éléments d'inscription commune, puisque nous savons qu'il y a une histoire commune, une civilisation et une existence et une culture maghrébine spécifique, et on pourra imaginer d'autres dossiers. Savourons celui-là.
Je ne vais donc pas vous poser la question qui fâche, quel pays a la paternité du couscous ?
Non, je crois que c'est une question que, d'abord, qui ne me dérange aucunement comme ambassadeur de Tunisie, mais je crois qu'on oublie l'histoire. Le couscous remonte tellement loin dans l'histoire qu'il est antérieur aux États. C'est une question qui n'a aucun sens. On n'a pas découvert il y a 50 ans, il n'y a pas un siècle, il n'y a pas deux siècles, mais le dossier qu'on a présenté, on a prouvé que les premières formes d'installation humaine au Maghreb dans différentes régions, les habitants de ces régions ont commencé à rouler les céréales
dans
pour
l'Antiquité,
en fabriquer
même,
cette graine.
Dans l'Antiquité, même avant.
À l'Antiquité. Donc, la question de savoir ça revient à quel pays, moi, elle me fait rire parce que le couscous est bien antérieur aux États. Donc, la question n'a pas tellement de pertinence historique. Par contre, aujourd'hui, que l'emporte un élément de notre vie quotidienne, chacun des Maghrébins, et même au-delà, on l'a vu dans les témoignages subsahariens ou même les témoignages en France, Donc, notre vie, nos gestes de tous les jours font partie de la culture universelle. Ouais. Je crois que c'est ça le message le plus important.
Et Nadia, est-ce que vous diriez qu'il y a des spécificités de couscous, si on reprend ces quatre pays qui se sont unis pour la première fois pour porter ce dossier de candidature du couscous auprès de l'UNESCO, et donc qui est parvenu à faire classer le couscous au patrimoine immatériel de l'UNESCO, est-ce qu'il y a une tendance couscous algérien, couscous tunisien, couscous, ou est-ce qu'il faut davantage regarder les régions, les zones culturelles et la géographie, zone côtière, zone intérieure du pays?
Alors, c'est un mythe total de penser qu'il peut y avoir un couscous algérien, tunisien,
marocain, mauritanien.
Voilà. Dans chaque pays, il y a des régions, il y a beaucoup de régions avec chacune des traditions très fortes. Et on va retrouver même des recettes en filigrane présentes dans chaque pays. C'est-à-dire, on va croire par exemple que le couscous avec le confit de raisin et oignon est plus propre au Maroc.
Mais avec cette habitude du sucré salé la cuisine marocaine.
Voilà. Mais en fait, vous allez le trouver aussi dans certaines familles tunisiennes. Donc non, je pense que c'est vraiment un mythe. Et puis, la palette des recettes de couscous, c'est extrêmement riche. Donc, et c'est une bonne chose.
En Tunisie, votre pays, Monsieur Ghazi Gharahiri, le couscous suit quand même la géographie de votre pays. Non, couscous de poisson, couscous de mouton, en fonction des endroits où on se trouve.
Il a suivi au départ la géographie, mais il a suivi aussi l'histoire. Donc, je souscris tout à fait à ce que Madame Hammam vient de dire. Il y a une évolution des traditions culinaires. Il y a un couscous que l'on prépare pour certains événements de l'année ou certains moments de la vie. En tous les cas, je suis convaincu que le couscous est un marqueur de la maghrébinité, c'est-à-dire qu'il suit la vie de nos populations à tout moment. D'abord, c'est un plat d'hospitalité, de convivialité, de partage, mais surtout, c'est un plat qui nous suit dans les grands moments de la vie, c'est-à-dire les fêtes, les moments heureux, mais aussi les moments solennels ou moins heureux, comme les deuils, etc. Donc, c'est très difficile d'imaginer un événement important, ou même de moindre importance, dans toutes les régions du Maghreb, sans un couscous. Alors, il peut être très saucé à la sauce tomate et au poisson, et même avec certains fruits de mer sur les côtes tunisiennes, ou alors il sera beaucoup plus sobre, on va dire, moins saucé avec du mouton dans des régions éloignées des côtes. Mais ça, c'est l'histoire qui s'est installée ainsi. Mais aujourd'hui, en tous les cas, je parle de mes compatriotes, ils s'approprient toutes ces formes-là. Et on peut avoir envie en hiver d'un bon couscous aux légumes et d'un bon couscous aux mérous ou à un autre moment de la vie, donc il n'y a pas une singularité.
Oublier, et il ne faut pas oublier non plus, M. Gharahiri, les familles juives séfarades qui ont apporté aussi des variantes à cette façon de préparer le couscous, puisqu'on est bien sur un plat méditerranéen avant d'être sur un plat relié à une langue, à une religion. Qu'est-ce que ça va vous donner concrètement comme obligation ou comme avantage, le fait que le couscous, les savoir-faire liés au couscous soient désormais classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO ?
Laissez-moi réagir à votre début d'insertion. Et bien entendu, j'avais dit tout à l'heure que ça remonte tellement dans l'histoire que toutes les composantes à la fois sociologiques ou confessionnelles de nos sociétés s'y adaptent. Il y a eu même récemment de beaux documentaires et de beaux films qui montrent aussi en tous les cas, je crois que c'était dans la région de Djerba, une famille juive, une famille chrétienne, une famille musulmane qui préparait chacun à sa manière son couscous, qui est une déclinaison d'un couscous sous-régional. Donc, ça montre qu'il y a une appropriation de toutes les composantes et de toute la mosaïque de nos sociétés dans leur belle diversité. Donc, cela va de soi et on s'en félicite. Et vous avez dit quelles sont les obligations qui nous incombent. D'abord, de protéger, de sauvegarder ce patrimoine dans sa diversité, dans son adaptation et surtout dans son partage avec le reste de l'humanité. On ne va pas inscrire un élément pour dire « oui, mais Patouche, c'est à nous », etc. Non, au contraire. Et j'ai commencé mon propos tout à l'heure en soulignant ce que nous considérons qu'il y a une mondialisation avec le couscous. Vous allez dans des supermarchés au Japon ou aux États-Unis, vous allez trouver des paquets de semoule, ça montre qu'il y a
Oui, alors certains pourront crier au sacrilège. Et monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous savez le préparer vous-même, le couscous ?
J'ai tellement d'estime pour ceux qui le préparent bien que ce que je baragouine ne peut pas être considéré comme une tentative concluante. Mais par contre, je suis un consommateur et peut-être un appréciateur de certains couscous. En tous les cas, en Tunisie, j'aimerais bien porter à vos auditeurs, parce que j'ai écouté de belles choses savoureuses tout à l'heure en début d'émission, un très bon couscous au Mérou, ou même, moi j'ai une inclinaison particulière pour un couscous qui n'est pas très connu, mais qui est un couscous au khadid, c'est-à-dire à la viande séchée. C'est vrai que c'est un peu salé, mais c'est vraiment succulent. Donc je conseille à vos auditeurs de s'y essayer.
C'est bien noté. On va continuer de décliner le couscous. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Ghazi Gharihri, ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Et je crois que ce vendredi après-demain, les quatre délégations, donc algériennes, tunisiennes, marocaines, mauritaniennes, vont se retrouver pour aller chercher le fameux certificat du classement au patrimoine immatériel de l'humanité.
Absolument, et je vois qu'on cache très peu de choses à RFI, et c'est tant mieux.
Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On parlait justement de cette cuisine de femme, hein, la preuve, monsieur l'ambassadeur, qui ne cuisine pas le couscous. Les voisins, les voisines, vous postez en tout cas vos recettes ou vos questions à nos invités si vous vous lancez dans l'apprentissage de ce plat. Plat unique, WhatsApp unique aujourd'hui, 33 7 64 45 51 41. Et justement, Nadia Hammam, je ne résiste pas à partager mon coup de cœur musical, Bob Azam. Écoutez bien les paroles, parce que c'est l'épouse qui donne un ordre à son mari. Fais-moi du couscous, chérie.
Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. J'ai une jolie femme dont je suis épris. Mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Sortant de sa chambre, à peine vêtue, elle se frotte le ventre.
Fais-moi du couscous, chérie. Chérie, à l'oral, on pourrait croire que c'est l'homme qui chante et donc qui donne l'ordre à sa femme, mais pas du tout. Hein. Elle a une lubie la nuit et elle veut du couscous.
Effectivement, une chanson très connue, mais qui me fait rebondir. Je voudrais quand même vous signaler qu'en fait, les immigrés ont été obligés de faire leur couscous pendant 20, 30, 40 ans, puisqu'ils se sont retrouvés sans femme en France. Dans les foyers, ils ont eu chacun leur spécialité, en fait. L'un apprenait à faire le couscous, l'autre tel autre plat de leur pays.
Nadia Hammam, le plat de votre enfance en Algérie, c'est bien sûr le couscous. En Kabylie, c'était un couscous à base d'orge et pas de blé.
Oui, beaucoup à base d'orge ou de blé complet et parfois même de seigle. Puisqu'en fait, on cultivait nos propres céréales. Moi, j'ai grandi dans cet univers-là. Alors, dans les montagnes, et parce que dans les villes, probablement qu'ils avaient accès à une semoule blanche raffinée.
Ça veut dire que quand vous avez goûté, vous aviez quoi, 4-5 ans, quand vous avez goûté pour la première fois du couscous de blé, vous n'avez pas aimé du tout.
Le couscous blanc, oui, effectivement, à partir de blé raffiné, j'avais pas du tout aimé. Je trouvais que ça avait un petit goût un peu métallique dans la bouche. Et j'ai été condamnée à le manger ensuite, une fois arrivée en France, effectivement.
Jusqu'où vont les frontières du couscous ?
Écoutez, de ce que je sais, elles vont jusqu'au Brésil, où j'ai retrouvé donc un couscous de maïs, donc probablement apporté par les esclaves noirs, hein, partis par la Corne de l'Afrique, et peut-être aussi par les Portugais, en colonisant le Brésil. Un couscous très différent, puisque c'est un couscous qui est en forme de gâteau, qui est cuit dans un vrai couscoussier, peut-être même un peu plus intelligent que le nôtre. Hein, et donc ce gâteau de maïs est cuit à la vapeur, et servi, il peut être cuisiné avec du fromage, des aubergines, de la noix de coco. Donc très exotique.
Donc le couscous, ça peut être avec du blé, ça peut être avec du mil, avec du manioc, avec de l'orge, avec du maïs, vous en parliez. Il n'y a pas de couscous de riz. Là, c'est la frontière. Si on passe au riz, c'est plus du couscous ?
Je ne connais pas de couscous de riz. Et effectivement, pour moi, la limite, c'est vraiment le Nil. Hein. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'au Nil, où il y a quand même en Égypte quelques tribus berbères encore, il y a du couscous. Puis après, on rentre dans la civilisation du riz. Et là, il n'y a plus de couscous.
Ouais, parce que la culture berbère a évidemment été centrale dans la transmission du couscous. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est elle aussi qui a emmené le couscous au sud, dans les pays d'Afrique de l'Ouest notamment, puisqu'il y avait toutes ces tribus Touareg hein, qui traversaient le Sahara d'est en ouest et de nord au sud, et qui avaient avec eux leurs graines de couscous. Alors,
je disais en début d'émission qu'il existe un festival chaque année de couscous en Sicile. En fait, ce n'est pas un terrain neutre, parce que les Siciliens aussi ont cherché à revendiquer une part de paternité du couscous, même si c'était bien après les traces de couscous dans l'Antiquité, retrouvées dans les civilisations antiques au Maghreb. En Sicile, ça serait bien plus tardif, arrivé avec les conquêtes arabes au 9e siècle. Mais les Italiens sont partie prenante dans cette histoire de couscous.
Les Siciliens, en tout cas, le Couscous Fest... Effectivement, j'ai été jury hein, une année là-bas et c'est extraordinaire. Et alors, j'étais un peu presque vexée en fait que ce soit la Sicile qui réussisse à organiser ça tous les ans depuis plus de 15 ans, ouais. Quand même. La Sicile, c'est quand même un petit confetti dans la Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Donc, c'est. Voilà, c'est une terre qui a été colonisée et qui a colonisé. Il y a une relation très intime avec la Tunisie. Et leur couscous, d'ailleurs, est un couscous marin, très marin. Donc à base de fruits de mer, de poissons. On est plus à mi-chemin entre la bouillabaisse, une rencontre de la semoule et de la bouillabaisse. Et c'est très aromatique plus qu'à base d'épices.
Oui, mais il y a toujours des légumes et toujours la semoule.
Alors il y a une semoule qui est très fine, beaucoup moins cuite qu'au Maghreb. Il y a un bouillon qui est mélangé à la semoule, comme en Tunisie. C'est ce qu'on ne trouve pas d'ailleurs en Algérie ou au Maroc. Il y a peu de légumes. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et il y a beaucoup d'aromates. Ça peut être aussi très pimenté.
Alors, vous nous appelez bien sûr les voisins, les voisines, si vous vous intéressez au couscous, au 33 7 64 45 51 41, où que vous soyez dans le monde, hein, puisqu'on le disait, les frontières sont très élastiques du couscous, les céréales utilisées aussi pour faire le couscous, les variantes sont innombrables, vous nous disiez, Nadia Hammam, la céréale peut être mouillée avec le bouillon ou pas du tout, ça peut être considéré comme un sacrilège, enfin voilà, on en débat. Vous nous appeler, on prend un auditeur Maoudo qui est à Dakar au Sénégal. Bonjour Maoudo.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Vous êtes en direct, on vous écoute sur le couscous.
Bah, écoutez, moi je voulais bien parler du couscous mais le temps est trop court. Alors les variétés de sauces dont on me parlait, il y en a plusieurs.
Oui.
Elles peuvent être à l'huile et à la tomate avec des légumes locaux comme c'est habituel, c'est-à-dire la courge et le manioc. Mm-hmm. qui sont privilégiées. Bon, il y a également des sauces à l'arachide grillées qu'on appelle le bassé, mm-hmm. et qui est évidemment un petit plat de luxe d'une certaine manière.
Ouais. Mais votre couscous à vous, Maoudo, votre couscous familial, il vient d'où ?
Le couscous, il vient
chez
du
vous.
Mil.
Oui.
Généralement, du mil dans la majorité des ethnies du Sénégal, c'est le mil.
Oui.
Aussi bien le petit
mais
d'ailleurs que
vous-même,
le gros.
Vous-même, vous concernant, Maoudo ?
Moi, j'ai grandi avec le couscous du mil.
Oui. Où ça ?
Et j'ai adoré ces moments, comme je le disais tout à l'heure, où avant le crépuscule, la mère faisait cuire le couscous à la vapeur.
Oui.
Eh bien, l'odeur venait et la petite boule couleur orange qu'on nous offrait comme un goûter,
oui.
c'est un plaisir. Bon, ce couscous-là, une fois évidemment, après la moulure à travers la calebasse, devait avoir un grain bien particulier et ensuite recevoir l'assaisonnement du gluant un peu plus tard,
oui.
repasser à la vapeur, servi à la sauce évidemment. Moi, bon, je disais tout à l'heure que nous sommes marqués à tel point que le colonialisme n'y a pas échappé.
C'est vrai.
Quand Seybo Traoré commence son émission par le coq chante le jour pareil, ouais. il n'a pas continué.
Mais ce couscous, Maoudo, vous ne répondez pas à ma question. C'était dans quelle région ? C'était au Sénégal ? C'était où ?
Oui, je suis au Sénégal. Moi.
Oui, d'accord. Mais dans quelle région avez-vous grandi, Maoudo ?
Djourbel.
D'accord, d'accord. Et c'était votre maman qui le préparait ?
Oui, ma maman, puis mes sœurs et tout ça.
Merci en tout voilà. cas de nous avoir appelé Maoudo pour... ça nous donne l'eau à la bouche, hein, Nadia Hammam.
Ah oui, oui, oui. En plus, moi j'ai découvert ces couscous africains en Sicile, à ce fameux festival. Je me suis régalée. J'étais à mille lieues d'imaginer, en fait, c'est tout un monde. Les couscous d'Afrique de l'Ouest.
Alors justement, on est en ligne avec un autre auditeur et encore merci Maoudo de nous avoir appelé en direct de Dakar. Ali nous appelle de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Bonjour Ali, soyez le bienvenu.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Alors vous souhaitez nous parler de la façon dont on utilise la céréale dans le couscous chez vous au Cameroun.
Exactement. Et en fait, moi je pense qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle couscous dans le Maghreb et couscous en Afrique subsaharienne, quoi. Je parle notamment de l'Afrique de l'Ouest et oui. l'Afrique centrale.
Uh-huh.
Et du côté du Maghreb, en général, je pense que c'est à base de blé, si je ne me trompe pas. Et puis c'est quelque chose de relativement facile à préparer, quoi. Uh-huh. On achète une boîte et puis on laisse de l'eau chaude. Le mode d'emploi est même directement mis sur la boîte.
Oh là là, alors attendez, Nadia n'est pas du tout d'accord avec ça. On continue de préparer la graine roulée aussi au Maghreb.
Oui, oui, le vrai couscous, uh-huh. tel que moi je le fais uh-huh. encore, c'est un travail très long. Qu'on fait à la main, avec des tamis, ça c'est 3-4 heures de travail minimum. Ouais.
Mais alors, chez vous, okay. vous utilisez quelle céréale au Cameroun pour préparer le couscous ? Là, vous, c'est du mil ?
Justement, au Cameroun, en fonction de la céréale dominante dans la zone, on peut utiliser soit du mil, soit du riz, soit du maïs. Et en fait, ce sont ces graines qui sont d'abord écrasées jusqu'à l'état de poudre et séchées. Qu'on prépare selon un processus. En fait, ça n'a pas le même aspect que le couscous du Maghreb, qu'on appelle même, justement, j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de couscous algérien.
Ouais.
Justement, c'est le nom que nous, on donne. Quand une personne veut parler du couscous du Maghreb, on dit couscous algérien, et là, on se retrouve, quoi.
Alors, vous faites cette espèce de pâte, hein, une fois cuite, séchée, et ensuite, ça va être râpé, c'est ça, pour que ça redevienne une forme de semoule ou pas ?
Non, en fait, on prend du maïs à l'état de graines qui est séché. Lorsqu'il s'agit du couscous de maïs, bien sûr. Donc, on sèche le maïs en graines. Ensuite, il est écrasé et séché encore pour réduire suffisamment l'humidité pour faciliter ouais. la conservation.
Mm-hmm.
Maintenant, au moment de préparer, c'est cette farine qu'on prend et qu'on mélange de l'eau chaude selon certaines étapes. Et ensuite, il y a des instruments spéciaux pour tourner ce couscous. Ça demande souvent un peu de muscle en fonction de la céréale qui est utilisée. Et à la fin, quoi, on a un couscous cuit et puis qu'on fait ressortir sous forme de boule.
Oui, Nadia,
alors, mais alors, ça a quelle texture ? Donc, c'est une boule ? où c'est
exactement
où ça se où ça s'émiette.
La parenthèse, ça surtout à de la pâte à modeler, ça exactement l'aspect de la pâte à modeler.
Ah oui.
Et maintenant, ça s'émiette plus ou moins en fonction de du type de graines qui a été utilisée. Donc le couscous de manioc par exemple est plus élastique que le couscous de maïs, le couscous de mil sera un peu plus dur une fois qu'il aura refroidi, ainsi de suite quoi. Et ça dépend aussi du dosage de farine.
Et cette pâte qu'on va prendre avec les doigts et qu'on va tremper aussi après dans des sauces ou pas du tout?
Exactement, ouais. Qu'on va tremper dans des sauces. Et généralement, il est assez difficile de manger ce couscous-là avec une sauce tomate. En général, c'est avec des sauces gluantes, plus ou moins gluantes, ou alors qui peuvent facilement s'arrêter, quoi,
ouais,
avec les doigts. Par contre, la sauce tomate n'est pas évidente à arrêter. Or, le couscous algérien, comme nous on dit ici, se consomme avec la sauce tomate ou bien du yaourt.
Ouais.
Oui.
On se posait la question avec Nadia si le riz pouvait être une composante du couscous. Vous nous apportez une réponse positive. Vous avez l'air super calé sur le couscous, Ali Amaroua.
Je suis surtout un grand consommateur.
Mais vous le cuisinez vous-même ou pas?
Non, le couscous, je n'ai jamais tenté parce que si le couscous, comme nous on l'appelle, quoi, je ne l'ai jamais tenté parce que si je rate, ce sera, il y aura des problèmes de digestion. Par contre, le couscous du Maghreb, il est facile, quoi. Comme je disais tout à l'heure, je suppose peut-être que ce sont des couscous pré-cuits qu'on nous vend dans des boîtes. Donc c'est très facile, quoi, surtout pour un homme qui ne sait pas préparer. Il suffit juste qu'il chauffe un peu d'eau et puis, bon, les proportions sont déjà indiquées sur la boîte. Donc
c'est vrai qu'il existe une semoule pré-cuite et qui finalement permet d'évacuer toute la phase extrêmement longue de rouler la semoule, de rouler la céréale. Merci beaucoup à vous d'avoir été en ligne avec nous, Ali. Très très bonne journée à Maroua. Brice aussi à Yaoundé nous a envoyé sa recette de couscous, couscous de manioc, couscous de maïs. Et il verse en pluie le manioc ou le maïs dans une marmite d'eau bouillante. Il remue avec un pilon en bambou. C'est pour ça qu'Ali nous parlait d'ustensiles très spécifiques. On obtient un mélange homogène, malléable. On remet la marmite sur un feu doux. Et voilà, le couscous est prêt. Il se déguste avec les sauces gombo, arachides, pistaches, tomates. Nadia Hammam, oui, allez-y, je vous en prie.
Oui, alors je voulais juste signaler que, alors je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, il y a des recettes de couscous de manioc, où en fait on travaille la tubercule, hein, donc le manioc en une pâte, qu'on sèche après en forme de boule. Elle est suspendue à l'air pendant plusieurs jours, donc elle fermente légèrement et ensuite on la râpe, ce qui donne en fait comme des grains de couscous. Et c'est ces grains râpés, donc pas roulés mais râpés, qu'on va ensuite cuire à la vapeur et qu'on sert avec des sauces et qui là a en fait la forme du grain du Maghreb, mais pas du tout le goût, parce que c'est une céréale qui est légèrement acidulée.
Est-ce que vous pouvez, avant qu'on donne la parole à un auditeur qui veut vous poser une question, Nadia Hammam, nous réexpliquer comment concrètement on roule la semoule traditionnelle de blé?
Alors, la recette traditionnelle, en fait, on prend de la semoule de blé, c'est la farine moulue à un grain plus gros, hein, tout simplement. Elle est crue et on va la mouiller. En fait, on va lui faire boire de l'eau.
Mais de l'eau bouillante ou froide?
Non, de l'eau froide. On va avoir un grand plat et on va tourner, on va mélanger cette semoule crue avec de l'eau, mais de manière très lente, avec très peu d'eau. Donc, c'est une question de toucher et il faut pas lui faire boire trop d'eau.
Ouais, c'est
et
très intuitif, hein, ça,
c'est
finalement.
C'est très intuitif, c'est très... Voilà, donc ça prend beaucoup de temps.
C'est une espèce de pâte qui, petit à petit, va...
Alors, c'est jamais une pâte. Il faut jamais que ce soit une pâte.
Entre pâte et bouillie, alors, qu'est-ce qu'on
non,
pourrait dire?
Non, c'est comme un sable.
Ouais,
c'est comme un sable parce que les grains restent autonomes. Et au fur et à mesure qu'elle absorbe, que les grains absorbent l'eau...
Ouais. Quel doigt on utilise des mains pour...
tous les doigts, toute la paume. Il y a un geste qui est très beau. Hein. C'est un spectacle, hein, de voir ce roulage du couscous. Puis après, à plusieurs étapes, on va passer ces grains dans des tamis de diamètres différents.
Et toujours on va... avec la paume de la main aussi pour faire passer les grains au travers des petits trous du tamis ou
voilà, pour en fait le débarrasser de certains diamètres de grains, pour garder, en fait on va calibrer hein, tout simplement les grains qu'on va garder. Et donc c'est encore un travail de roulage très musical, où c'est très beau à voir. Et c'est voilà, il y a 3 ou 4 passages différents, donc c'est plusieurs heures de travail.
Ouais. Alors il fallait quand même passer un petit peu de temps pour parler de cette utilisation des céréales très variées, mais aussi des techniques. Et on l'entendait aussi avec Ali qui nous appelait, très très long, hein, quoi qu'il arrive, quand on veut vraiment cuisiner correctement cette semoule. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille une question de Parfait qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo Brazzaville. Bonjour Parfait. Parfait, est-il en île avec nous ou bien nous a-t-il quitté? Parfait. Alors il avait une question qu'on a... Ah, il est là. Parfait, vous êtes au téléphone avec nous, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Oui, je suis là.
On vous écoute, Parfait.
Bon, en fait, j'ai entendu parler de le couscous marin, et comme si je n'ai jamais vu ça ou... manger, j'aimerais savoir est-ce que ça existe.
Alors, l'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO, Ghazi Gariri, nous parlait du couscous de la mer pour la partie nord de la Tunisie. Nadia Hammam, vous confirmez qu'il y a une bonne partie des couscous qui peuvent se cuisiner avec des produits de la mer, poissons ou fruits de mer?
Alors, les côtes tunisiennes sont célèbres pour leur couscous de poulpe, hein, on le sait moins, mais surtout de mérou. Voilà, c'est vraiment, ils sont connus pour ça. Et la Sicile aussi a une grande tradition de couscous à base de crustacés et de poissons, avec des bouillons faits à partir de poissons de roche. Ça peut être aussi avec des langoustes, du homard, et c'est excellent.
Ça veut dire qu'on cuisine le poisson ou les fruits de mer à part, hein, bien évidemment, dans un bouillon ou complètement à part?
Ça dépend des recettes. Généralement, je sais que les couscous de poisson en Tunisie, c'est des bouillons qui sont cuits plus rapidement avec le poisson directement dans le bouillon. Mais il peut y avoir des bouillons qui peuvent être faits à partir de poissons de roche à part, comme on va faire une bouillabaisse, puis après passer, et puis après on peut rajouter d'autres ingrédients.
Parfait. Est-ce que vous êtes satisfait des explications de Nadia?
Parfaitement. Merci beaucoup.
Merci à vous. Très bonne journée à Pointe-Noire. Nadia Hammam, votre recette familiale, comment vous faites le couscous vous-même?
Alors nous, on a plusieurs recettes. Hein. C'est toujours c'est de l'ordre du labyrinthe pour vous, Emmanuel, désolé. Mais sinon, le couscous classique qu'on fait, il est souvent à base d'agneau, avec une sauce plutôt tomatée, avec quelques épices. Principalement un tout petit peu de curcuma, de la coriandre, un petit peu de paprika ou du piment doux, et beaucoup de légumes et des pois chiches.
Une question quand même, en France, il y a un endroit où on peut dire c'est le meilleur couscous de France, où là aussi ça va être des débats interminables?
Alors, écoutez, déjà les restaurants ouvrent et ferment, mais nous, on a avec François-Régis Gaudry, que vous connaissez peut-être, qui est donc critique gastronomique et qui anime l'émission Très Très Bon. On a fait une émission récemment et on a visité plein de restaurants en France, et notre meilleur couscous est à Toulouse. C'est à la Pente Douce. C'est un homme génial qui fait ça. C'est un couscous d'auteur. J'invite tout le monde à aller à Toulouse.
Une question aussi sur les couscous sucrés. Parce que le Maroc, par exemple, pratique qui a l'habitude de mélanger le sucré et le salé. Le couscous sucré, il existe dans quel type de cuisine et de région?
Oh, il existe dans plein de régions, encore une fois. C'est aussi un couscous qu'on peut servir très simplement aux enfants. On peut le faire avec des raisins secs à la vapeur et un petit peu de lait et un peu de sucre. Ça peut être un couscous avec des dattes, comme dans la région du Mzab, où il y a beaucoup de palmeraies. Et puis, le couscous, le fameux couscous avec les raisins, les oignons, avec pas mal de cannelle. Hein, c'est, vous le trouvez, ça pareil dans les trois pays.
Hein. Alors, depuis le début de l'émission, on a quand même beaucoup décliné des recettes qui prennent beaucoup de temps, qui sont assez coûteuses aussi, puisqu'on a parlé de la viande, on a parlé du poisson, des fruits de mer. Mais le couscous peut aussi être un plat extrêmement modeste. Dans ces cas-là, il n'y a que des légumes et de la semoule. Il n'y a pas de viande, pas de poisson.
Alors déjà, ce n'est pas toujours un plat de fête, le couscous. On peut en manger tous les vendredis. C'est un plat de famille. Et on peut faire effectivement un simple... J'ai une recette printanière, par exemple. Alors, ce n'est pas la saison, mais en Kabylie, on a un couscous où on ne met que des légumes dans le couscoussier. Donc, pommes de terre, petits pois, carottes, oignons, fèves. Ce que vous avez du jardin, vous faites cuire ça pendant une vingtaine de minutes à la vapeur, vous rajoutez la semoule et il n'y a pas de bouillon. Vous mettez ça dans un grand plat avec beaucoup d'huile d'olive et c'est juste exquis.
Ouais, c'est ce qu'on appellerait un couscous végétarien finalement.
Tout à fait.
Clémence Donavy de l'émission Le Goût du Monde vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour,
bonjour
Clémence.
J'ai faim d'un petit couscous.
Soyez la bienvenue. Vous avez parlé du couscous d'ailleurs.
Absolument,
dans votre émission.
D'ailleurs avec le numéro 2 du palmarès avec Nordine Labiade.
Ah oui.
À Paris dans le 14e, qui fait de bons couscous, notamment au poulpe.
Voilà, alors il va falloir que vous vous rendiez le jour où la pandémie nous permet. Oui, et puis au festival du couscous, festival annuel en Sicile.
Mais bien sûr, le championnat du monde remporté par une Française, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, pour un couscous de miettes de pain.
Frédéric Grasser-Hermé,
voilà,
qui est une amie, effectivement, qui a réinterprété une vieille recette du Moyen-Âge, ouais, espagnole.
Clémence Donavy, avant de se quitter, donc, vous allez nous donner le menu du Goût du Monde pour ce samedi, Clémence.
Eh bien, ce sera un sucré-salé aussi, figurez-vous, parce que nous allons aller à Venise. Alors, Venise, on l'oublie, mais c'était un carrefour au XVIe siècle entre l'Orient et l'Occident. Carrefour, on récoltait évidemment Venise exploratrice, donc on rapportait des épices, donc la cannelle, toutes ces épices dont vous avez parlé à l'occasion du couscous également. Et alors, les Vénitiens, c'était un peu les pionniers du marketing parce qu'ils recevaient les épices, ils les transformaient, puis ils les revendaient encore plus cher après, d'où toute la richesse. Alors, Venise, c'est aussi l'art du sucre, le goût du sucré salé, je vous l'ai dit, l'aigre doux, la mer également. Donc, on va parler de toutes ces saveurs-là vénitiennes. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que le premier goût à Venise, c'est la bacala.
Oui,
la morue.
Ouais,
Et une vraie tradition de morue. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à Venise, c'était le sel et que donc on rapportait les morues à Venise qui étaient donc salées et transformées. Et donc la bacala mantequeta, je ne sais même plus comment on dit, délice de morue montée à l'huile d'olive. Donc on va parler de tout ça, de crostini, de toutes ces choses absolument délicieuses, de bouchée, de tapas en tapas, en regardant en visio le carnaval cette année. Mais bon, on se consolera en cuisinant des petits gâteaux, évidemment, de carnaval, dont vous aurez les recettes sur la page du Goût du Monde.
Vous nous parliez de cette morue, évidemment, qui, pour se conserver, a besoin de sel. La conservation, c'est toujours quand même la base des recettes, parce que pour ce fameux couscous, le fait de rouler, ça a permis aussi de faire sécher les graines et de les conserver, non, me semble-t-il, Nadia Hammam ?
Oui, on roule le couscous en grande quantité pour le sécher, toujours en grande quantité. Les femmes se réunissent généralement pendant 4-5 jours. Elles vont rouler 20, 30, 40 kilos de couscous à plusieurs pour pouvoir nourrir leur famille pendant 3, 4, 5 mois.
Eh bien, merci à vous en tout cas, Nadia Hammam. Vous avez publié « Les mondes du couscous » aux éditions Encre d'Orient. Clémence, évidemment, je n'ai pas donné l'horaire, mais c'est samedi, le Goût du Monde à 16h20,
temps universel,
le Goût du Monde. Et évidemment, l'émission est podcastée. Toutes vos émissions, le Goût du Monde, sont podcastables. Demain, 7 milliards de voisins, l'Afrique championne mondiale du cacao. Mais quel défi pour la qualité et la transformation, on en parlera. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Et nous aurons dans le studio Claire Fage, la spécialiste des matières premières sur RFI. Je vous dis bien sûr au revoir et je remercie toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Juliette Bro, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Et vous nous réécoutez à loisir, en podcast, une fois que vous avez téléchargé, plus besoin de connexion Internet. Merci à vous tous et merci à vous aussi pour tous vos messages. Chaque jour, à demain.
Tout à l'heure sur RFI. De vive voix, Pascal Paradis.